Affaire emblématique de violences sexuelles et sexistes, et on est aujourd'hui en Espagne pour un retour sur l'affaire dite de la Manada.
Très bonne émission.
Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Margot Leridon, Gwendoline Troiano, Joséphine Reinhardt et Christine Anger. À la réalisation, c'est Sam Bakiast et à la technique, ce matin, Paul Guig. Alors qu'on s'interroge en France sur les leçons à tirer du procès de Mazan qui se termine et que l'histoire de Gisèle Pelicot a connu un retentissement mondial, retour cette semaine sur quatre affaires à travers le monde, elles aussi emblématiques d'un choc et d'une prise de conscience sur les violences sexuelles et sexistes. Après avoir parlé de l'affaire Giulia Cecchettin en Italie, puis de l'affaire Harvey Weinstein aux États-Unis, avant d'aborder demain l'affaire Nirbhaya en Inde, ce matin direction l'Espagne, retour sur l'affaire dite de la Manada.
Ils disent que c'est juste un abus et qu'elle aurait dû se défendre ou partir. J'ai honte.
Vergüenza. Je crois qu'en plus de reconnaître toutes les formes de violence, il y a un autre changement fondamental qui est le seul en oui est un oui, soit le fait de mettre le consentement au centre de la législation et au centre de notre réflexion, de notre compréhension des relations humaines.
Cette loi fait perdre du terrain aux interprétations machistes sur le comportement des femmes. Nos jupes sont-elles trop courtes? Nos jambes sont-elles trop ou pas assez fermées? Ces questions n'ont plus lieu d'être. La pierna.
C'est l'aboutissement d'un long combat sociétal et politique. Le 25 août 2022, la loi de garantie intégrale de la liberté sexuelle, surnommée « Seul un oui est un oui », est adoptée définitivement par les députés espagnols. En faisant du consentement le socle de la définition d'un viol, l'Espagne espère amorcer une véritable révolution judiciaire et culturelle, dont le point de départ remonte à l'été 2016. Nous sommes à Pamploune, dans le nord du pays, la célèbre fête de la San Fermín bat son plein. Un groupe de 5 hommes qui se surnommait la meute, la manada en espagnol, entraîne une jeune fille à l'écart, ils la violent, filment la scène et l'abandonnent. Arrêtés rapidement, ils sont condamnés 2 ans plus tard à 9 ans de prison pour abus sexuels et abus de faiblesse. Un verdict qui provoque un mouvement de colère et d'indignation dans tout le pays. No es abuso, es un viol, ce n'est pas un abus, c'est un viol, scandent les manifestants et manifestantes. L'affaire dite de la Manada a-t-elle été un tournant dans le traitement des cas de viol par la justice espagnole? Comment a-t-elle cristallisé le débat? Quelles évolutions près de 10 ans plus tard? On en discute avec nos invités. Alice Touza, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en langue et littérature étrangère à l'Institut des mondes anglophones germaniques et romans de l'UPEC. Votre thèse porte sur les évolutions de la question du viol dans la société espagnole des années 90 jusqu'à l'affaire de la Manada. Et nous sommes également avec Gloria Casas Villa en duplex depuis France Bleu Occitanie. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Toulouse Jean Jaurès et chercheuse au CERTOP, le Centre d'études et de recherche, travail, organisation, pouvoir. Et je remercie au passage les équipes de France Bleu qui vous accueillent. Gloria Casas Villa, avant de commencer cette émission et de parler de cette affaire, la fameuse affaire de la Manada, il faut justement dire en préambule que ce qualificatif de la Manada, il fait débat, il pose question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Effectivement, parce que c'est la manière dont ces groupes d'hommes qui ont commis ces viols à Pamplona, mais d'autres viols aussi avant ces cas, s'autonomaient. Donc on prend distance avec la manière dont ces hommes se sont auto-baptisés pour commettre ces violences sexuelles en groupe. Donc, c'est un cas d'un viol collectif et on préfère garder ces termes et prendre de la distance avec la manière dont les violeurs cadrent leurs actes.
Et ce terme de la manada, il s'est imposé dans l'écriture médiatique parce que c'était le nom du groupe WhatsApp qu'il partageait.
Exactement.
Alice Touza, est-ce que vous pouvez peut-être, même si j'ai donné quelques éléments en introduction, nous rappeler les circonstances de ce viol survenu donc à Pamploune en 2016?
Eh bien, le 7 juillet 2016, en fait, une jeune femme va prendre part aux fêtes de la Sainte Fermine à Pamploune.
Il faut rappeler que ce sont des fêtes extrêmement importantes qui attirent beaucoup, beaucoup de personnes à Pamploune, qui sont très célèbres, très connues. Voilà, juste pour redonner un petit peu de contexte.
Effectivement, ce sont des fêtes où, en particulier, le début de boisson est très important. Donc, il y a plein de choses. Il y a des processions, des petites scénettes de théâtre, mais il y a aussi beaucoup de fêtes entre jeunes avec un fort débit de boisson, beaucoup de personnes alcoolisées. Et en fait, cette jeune femme, à peine majeure, je crois qu'elle a tout juste 18 ans, vient assister à ces fêtes avec un ami à elle. Et puis l'ami, au cours de la soirée, est fatigué et part se coucher. Et elle fait la connaissance rapidement de 5 hommes. Donc ce fameux groupe d'hommes qui se connaissent tous entre eux et qui étaient allés prendre part aux fêtes de la Sainte Fermine. Et en fait, au fur et à mesure de la soirée, il l'entraîne dans un hall d'immeuble et il la viole donc à tour de rôle. Il filme la scène sur leur téléphone et il l'abandonne à la fin de la nuit en lui volant son téléphone pour ne pas qu'elle puisse prévenir les secours.
Ce viol a aussi été filmé. Et ce sont des images qui ensuite ont été diffusées au procès. Comment est-ce que en 2016 l'affaire est médiatisée, Gloria Casas-Villa? Est-ce que à ce moment-là c'est un écho au niveau plutôt local, ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui prend une ampleur nationale? Et surtout, quel récit en fait-on à ce moment-là en 2016, donc avant le procès?
En 2016, je dirais que l'affaire, elle prend l'ampleur nationale, et avant qu'il y ait le verdict, ce qui fait beaucoup débat, c'est le fait que la victime, que le procès va être vraiment centré sur le comportement de la victime, et que les juges vont accepter un rapport d'un détective privé qui lui a été collé pour montrer qu'elle menait une vie entre guillemets normale, qu'elle n'était pas entre guillemets traumatisée par ces viols, et donc ces rapports de ces détectives privés vont déjà faire beaucoup vont susciter beaucoup d'indignation lors du procès, avant que en première instance il y ait cette résolution qui va déqualifier les viols en abus sexuel selon les codes pénals en vigueur à ce moment-là. Donc, ça va prendre de l'ampleur à cause de cette stratégie de la défense de se centrer, d'attaquer la victime, et donc vraiment de participer de cette culture du viol qui va se centrer sur elle et pas sur les agresseurs. Et donc avec beaucoup de stéréotypes aussi sur qu'est-ce qu'une victime de viol doit se comporter après avoir vécu cette violence.
Oui, parce que justement, ce détective privé qui la suit à son insu avant le procès, il diffuse notamment des photos d'elle où on la voit souriante avec des amis, et la défense utilise ces clichés pour bâtir sa stratégie. Avril 2018, les membres de la meute sont donc reconnus coupables, mais d'abus sexuels et d'abus de faiblesse. Ils sont condamnés à 9 ans de prison, 50 000 euros de dommages et intérêts. Alice Touza, quelle est la réaction à ce verdict? Est-ce que déjà elle est immédiate? Et comment s'organise-t-elle? Quel est le mot d'ordre? Que se passe-t-il le jour de ce verdict en Espagne?
Alors oui, elle est immédiate. Déjà, il faut rappeler que le lendemain du viol, donc en juillet 2016, il y avait déjà eu une réaction immédiate de la part des associations féministes qui étaient allées manifester dès le lendemain sur la place de Pamploune, voilà, pour crier leur indignation. Et effectivement, après ce premier verdict, la réaction est immédiate, parce qu'en fait, la sentence est trop faible par rapport à ce qu'espéraient la population et la population féministe, puisqu'elle qualifie les viols d'abus sexuels. Et à mon sens, ces réactions sont immédiates et extrêmement durables aussi, parce que déjà, les faits sont extrêmement violents, comme nous l'avons rappelé. Et surtout qu'il existe des preuves, donc à savoir les 5 vidéos. Les enquêteurs ont aussi retrouvé sur le portable des agresseurs des textos qui prouvent en fait la préméditation, la volonté qu'avaient les 5 agresseurs de commettre un viol avant même d'aller aux fêtes de la Sainte-Fermine. Ils ont écrit, je les cite, qu'ils voulaient baiser, entre guillemets, une femme entre eux 5 pendant les fêtes de la Sainte-Fermine. Et malgré ça, voilà, les faits sont qualifiés d'abus sexuels et non pas d'agression sexuelle avec cette acceptation du rapport des détectives privés. Et donc ça, bien sûr, ça va cristalliser l'indignation qui va en fait croître tant et plus. Et il y a en particulier un juge, lors de cette première audience, qui va cristalliser l'indignation de la population, puisque ce juge, en fait, va se prononcer... Donc, les deux autres juges se prononcent, disent que les faits n'ont pas été consentis, même s'ils qualifient les faits d'abus sexuels. Mais ce juge en particulier va avancer que la victime était consentante et il va même jusqu'à qualifier l'agression d'orgie consentie, de relation sexuelle désinhibée. Et donc, il cristallise en fait un petit peu ce que peut être la justice patriarcale aux yeux de la population et ce qui va faire encore plus en fait croître l'indignation.
Je pense que ce qui est fondamental dans cette affaire de la manada de Pamplona, c'est visualiser l'énorme fossé qui existait entre le système judiciaire et ce qu'il appelait viol, et le féminisme et la jeunesse qui disaient dans la rue, ceci est un viol. Lors du jugement, ils ont demandé de nombreuses fois à la victime de la manada si elle avait dit non, si elle s'était battue, si elle avait pleuré, si elle avait crié, si elle avait résisté. Nous avons un concept très masculin de la violence. La violence est frappée. Et les hommes ne comprennent pas que la violence sexuelle, ça peut être juste de toucher. C'est aussi une violence. Alors nous avons appelé agression sexuelle tout ce qui se réalise sans consentement et qui est condamné, que tu aies été frappé ou non. Si on te frappe, c'est pire, mais il n'est pas nécessaire qu'on te fasse mal pour qu'il y ait un viol. Et ça, c'est ce que dit la société confrontée à la manada. Il y a des fois où tu ne peux pas dire non.
Un témoignage de Victoria Rossel, qui est magistrate et ancienne déléguée au ministère de l'Égalité chargée des violences de genre entre 2020 et 2023. C'est un extrait du documentaire « Féminisme, l'avant-garde espagnole » par Ilana Navarro et Cécile Lafont, diffusé sur France Culture, dont on mettra un lien. Gloria Casas-Villa, c'est ça qui se révèle finalement en 2018 avec ce verdict. C'est ce fossé entre le monde judiciaire et la société.
Tout à fait. Cette décision judiciaire en première instance reproduit les stéréotypes sur les violences sexuelles et c'est une manière de dire aux femmes qu'en absence d'une violence physique extrême, elles ne vont pas être considérées victimes du viol. Il y avait à la fois un problème de définition dans les codes pénals et un problème aussi de machisme dans la judicature, dans les tribunaux. Je pense que c'est important ce qui a été dit par rapport à cette interprétation, ce vote dissident du juge qui a vu une ambiance de fête, holgorio en espagnol. Lui, ce juge, le Conseil général du pouvoir judiciaire lui a ouvert un expédient disciplinaire après. Mais il y a un documentaire qui est très bien, qui s'appelle « No estás sola »,« Tu n'es pas seule », qui traite du cas de la soi-disante manada, mais aussi de la victime de Pozo Blanco, des mêmes groupes de violeurs, et aussi de Nagore Lafage. Nagore Lafage a été victime de féminicide en 2008, aussi dans les fêtes de San Fermines, par un médecin psychiatre, Diego Illanes, qui a été condamné par meurtre et non pas par assassinat, qui a tenté de la violer. Et puisqu'elle avait résisté jusqu'à qu'elle soit tuée, c'est un cas qui fait vraiment aussi écho aujourd'hui. Et Almudena Carracedo et Robert Bahar ont fait un documentaire qui parle de ces trois cas, du problème d'impunité des violences sexuelles. Et dans ce documentaire, la victime de ce viol collectif de 2016 à Pamplona va dire que ce qui l'a le plus affecté, ce n'était pas tellement la déqualification d'agression sexuelle en abus, mais c'est vote particulier du juge qui a considéré qu'il y avait une ambiance de fête. Donc, voilà, ça va susciter une grande indignation, je dirais, parce que en Espagne, il y a eu un renouveau, une nouvelle génération de jeunes féministes, notamment à partir des années 2013. Avec la tentative échouée d'interdiction de l'avortement en Espagne, ça repolitise toute une nouvelle génération qui va être très active dans toutes les questions liées aux droits des femmes. En 2014 aussi, l'Espagne avait ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques, donc la Convention d'Istanbul, qui exige à l'Espagne de changer la loi dans le sens de ses principes, de ses paradigmes du consentement affirmatif. Et il y avait eu plusieurs manifestations assez importantes aussi contre les violences machistes pour exiger un pacte d'État. Et c'est tout ce contexte qui va nous aider à comprendre pourquoi voilà, il y a cet impact social dans les rues, cet impact médiatique et cet impact judiciaire du cas de la Manada.
Et justement, en 2019, après les mobilisations, la Cour suprême décide de requalifier les actes donc de cet épisode à Pamploune en viol. Cette fois-ci, juste pour bien comprendre, est-ce qu'on peut dire que la Cour suprême, l'instance judiciaire, a été sensible aux mobilisations? Est-ce que on peut parler d'une pression qui a fonctionné? Je vous pose la question parce que en général, il y a quelque chose d'assez imperméable entre les sphères politiques et judiciaires, et la justice se targue de ne pas être sensible à ce qui se joue dans l'opinion publique quand elle prend des décisions. Est-ce qu'en l'occurrence là, on peut dire qu'elle a été sensible à ce qui s'est à ces mobilisations, Alice Souza?
À mon sens, oui, elle a été sensible. Et justement, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que les sphères qui, en théorie, souvent ne sont pas sensibles à ce qui peut se passer dans la rue, comme par exemple la sphère juridique, mais aussi parfois la sphère politique, ces deux sphères ont été rapidement sensibles à cette affaire de viol, et c'est justement ce qui en fait la particularité. Il faut rappeler qu'au lendemain du verdict du premier procès, donc celui qui requalifie en fait les faits d'agression en abus, donc ce qui sous-entendrait que la victime n'a pas été victime en fait de violence ou d'intimidation, dès le lendemain, le ministre de la Justice de l'époque, donc Rafael Catalá, va commenter cette décision, dire que le juge dont on a parlé, qui avait émis un jugement contraire, a un problème. Et donc, on voit d'ores et déjà que le politique commente une décision de justice, ce qui est déjà extrêmement rare, puisque normalement, la justice est autonome et que le politique n'a pas à donner son avis. Donc, on voit d'ores et déjà ici que voilà, les différents domaines, que ce soit politique ou juridique, sont plus sensibles que d'accoutumer à cette affaire.
Et donc, Gloria Casas-Vila, si on avance un petit peu dans le temps, en 2022, l'Espagne adopte une loi qui désormais supprime la distinction entre abus sexuels et viols, ce qui était donc au cœur de la contestation et de l'indignation sur l'affaire de la Manada. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est un tournant? Et qu'est-ce que ça change pour les juges dans leur façon désormais de qualifier un viol?
Oui, ça change, c'est un tournant. On va dire que c'est vraiment un saut qualitatif par rapport à la loi cadre de 2004. Donc, on va considérer que les violences sexuelles ne sont pas un sujet individuel. Là, je vous dis ce qui est écrit dans les préambules de la loi des garanties intégrales de la liberté sexuelle. Donc, les violences sexuelles, ce n'est pas un sujet individuel, mais social. Et ce n'est pas un problème conjoncturel, mais structurel lié à l'ordre patriarcal. Et donc, pour cela, la réponse à ces violences doit sortir du domaine privé pour se situer indiscutablement dans la sphère publique comme une question d'État. Cette loi, effectivement, elle va opérer ces changements nécessaires autour du code pénal et de la définition. Donc, va supprimer cette distinction. Ne va plus exiger l'intimidation ou la violence pour prouver l'existence de violences sexuelles. Et elle va opérer aussi plein d'autres changements dans le même sens que la loi cadre de 2004, va donner une réponse intégrale, c'est-à-dire avec une série de changements au niveau des mesures de sensibilisation, de prévention, de formation des juges, des procureurs, des moyens de dépistage et des sanctions. Et ce qui est important, c'est qu'elle met la question de la liberté sexuelle comme un droit et toutes ces mesures comme des obligations de l'État. Elle va inclure une définition large des violences sexuelles en incluant les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, l'harcèlement sexuel, la traite avec finalité d'exploitation sexuelle. Elle va faire attention aussi spécifiquement aux questions des violences dans les domaines numériques. Donc tout ce qui est voilà extorsion sexuelle, sextorsion. Voilà. Et surtout, elle va considérer qu'il faut mettre au centre cette question du consentement affirmatif et pour éviter, la loi dit ces changements de perspective prétend éviter les risques de revictimisation ou de victimisation secondaire.
Alice Toussa.
Oui, alors effectivement, comme l'a dit ma collègue, cette loi, c'est une loi déjà intégrale, c'est-à-dire qu'elle va essayer de s'attaquer au système qui favorise le viol. Donc, va y avoir, comme l'a dit ma collègue, de l'éducation sexuelle, un budget renforcé, une protection des enfants de victimes également. Mais à mon sens, donc les deux choses majeures que font cette première version de la loi, c'est en fait supprimer cette notion d'abus sexuel pour la remplacer par l'agression sexuelle et donc surtout supprimer cette idée de ces notions de violence et d'intimidation parce que en Espagne au moment où la victime porte plainte le code pénal qui traite du viol c'est celui de 1995 et en fait qui distingue deux situations à savoir la situation d'abus sexuel où la victime aurait soi-disant été violée sans violence ou intimidation de la part de ses agresseurs ou si la violence et l'intimidation sont prouvées alors on tombe dans la catégorie des agressions sexuelles. Sauf que ça posait énormément de problèmes parce que déjà ça mettait la charge de la preuve sur la victime. En fait, elle devait prouver qu'elle s'était suffisamment défendue pour pouvoir prétendre à la qualification d'agression et non pas d'abus. Et si on fait un parallèle avec les viols de Mazan, par exemple, Gisèle Pilico n'aurait pas été une victime d'agression, elle aurait été une victime d'abus puisque la violence et l'intimidation physique en fait n'auraient pas pu être démontrées vu qu'elle était inconsciente. Donc ça posait quand même un énorme problème.
Et juste pour rappeler bien l'enjeu entre abus et agression, c'est absolument pas les mêmes peines de prison voilà. Qui sont requises, elles sont bien plus voilà. Élevées pour les agressions.
C'est ça. Et donc l'idée de cette première version de la loi était de supprimer en fait ces notions de violence et d'intimidation pour dire que une femme violée est une victime d'agression qu'il y ait violence, intimidation prouvée ou pas.
Alors 2022, la loi est adoptée, elle est présentée comme une énorme avancée, comme une révolution pour toutes les raisons que vous venez d'expliquer. Mais quelques temps après sa promulgation, de nombreux condamnés voient leur peine réduite de plusieurs années. Certains sortent de prison. On parle environ de 1000 personnes qui ont vu leur peine réduite et d'une centaine qui ont été libérées. Un débat s'ouvre sur des failles supposées de la loi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela est possible, que s'est-il passé, est-ce que la loi comportait des failles, Gloria Casasfila?
Ça a été possible puisque avec la suppression de cette distinction abus et agression, il va y avoir un changement dans la fourchette des peines. En Espagne, et je pense que c'est une différence avec la France, il y a des peines minimales et des peines maximales. Donc cette fusion ce changement de la fourchette des peines va signifier qu'on va punir un peu plus les anciens abus et on va punir un peu moins les anciennes agression. Et c'est un principe qui n'est pas propre seulement à cette loi, le fait qu'il y a une non-rétroactivité de la loi, sauf si elle est bénéfique pour les condamnés. Et donc, dans ces cas-là, il peut y avoir une révision des peines à la base avec la nouvelle loi. C'est clairement, en effet, une conséquence non voulue, je dirais, de la loi. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu des attaques médiatiques, politiques et sociales et la création d'une alarme sociale très centrée sur ces rabais des peines et en laissant de côté toutes les autres mesures très très importantes de la loi, on l'a pas dit, mais toutes les mesures intégrales des droits des victimes, d'accompagnement juridique, psychologique, de la création des centres des crises 24 heures sur 24. Et certains spécialistes vont dire que cette loi, elle va être attaquée très rapidement sans avoir le temps de voir à son déploiement. Parce qu'elle touche au cœur du système patriarcal, donc c'est pas seulement une question de débat politico-juridique. Et plusieurs collectifs de féministes, donc plus d'une centaine de collectifs féministes, vont faire un communiqué contraire un amendement par rapport à cette question pénale que le Parti socialiste espagnol va effectuer avec Alliance du Parti populaire. Et ces collectifs féministes vont mettre au centre du débat la question de la peine en disant « Augmenter les peines ne nous protège pas et ne nous a jamais protégés. La protection effective des femmes vient des mesures de la loi car elle élimine la distinction entre abus et agression et aggrave les actes qui avant étaient considérés mineurs et pas comme des agressions comme la soumission chimique. » La loi, elle est importante parce qu'elle met les consentements explicites pour déterminer l'agression ou pas, en mettant le focus sur l'agresseur, en se centrant sur les besoins des victimes. Elle change la procédure de la preuve de la médecine légale aussi, qui n'est plus soumise à la plainte. Elle crée ses centres de crise 24 heures sur tous les territoires. Donc, ces collectifs féministes vont dire qu'il faut pas faire des pas en arrière, que c'est un débat électoraliste centré sur un populisme pénal, sur cette idée de plus de punitions, alors qu'on est dans un système d'impunité structurelle. Et ces collectifs féministes vont dire voilà, est-ce qu'on veut des peines très fortes, mais pour très peu de cas, ou est-ce qu'on veut une réflexion un peu plus profonde et complexe sur la question de la peine? Et dans tous les cas, Irene Montero, qui était la ministre d'Égalité, qui a porté cette loi à bras le corps, a reconnu que les changements effectués a posteriori par les partis socialistes et les PP étaient un des jours les plus difficiles de sa législature parce qu'elle, ces changements remettaient en question la centralité du consentement positif.
Et oui, donc pour bien comprendre, effectivement, suite à ce phénomène de réduction des peines qui n'était pas voulu, le PSOE va entreprendre de modifier la loi en 2023. Et il s'allie pour cela au Parti populaire, qui n'est pas son allié naturel, contre l'avis du Parti Podemos qui avait porté ce projet. Est-ce que ça veut dire que la version finale, puisque encore une fois toute l'architecture, tout le principe était de baser une loi sur le consentement. Est-ce que la version finale de la loi, après cette modification, donne une loi moins ambitieuse que ce qui était prévu ?
Eh bien, à mon sens, oui, puisque la seconde version va laisser le principe du consentement sexuel explicite. Seul un oui est un oui, va le définir très clairement dans la loi, noir sur blanc. Donc ça, c'est quand même une avancée majeure et c'est pionnier en fait en Europe. Mais cette seconde loi ne va pas remettre la notion d'abus sexuel. Donc on va rester sur une notion seulement d'agression, mais en fait elle va remettre les notions de violence ou d'intimidation. Donc maintenant en fait on porte plainte pour agression avec violence et intimidation ou agression sans violence et intimidation. Donc cela vient forcément relativiser l'impact de la loi parce que sur ce principe-là, en fait, elle est relativement semblable à la loi de 1995, celle en fait à laquelle avait dû faire face la victime de la manada au moment où elle est allée porter plainte. Donc en fait, à mon sens, c'est un tournant législatif, mais qui reste quand même relatif, il est à nuancer. Et à mon sens, le vrai tournant de cette affaire se joue surtout au niveau de l'opinion publique. Le fait qu'une affaire privée, que le viol en fait devienne politique, devienne une affaire publique d'État et ne soit plus en fait dans le domaine du tabou et de l'intime.
Gloria Casasvilla, vous nous parliez tout à l'heure du rôle des mouvements féministes en Espagne qui ont connu un nouveau souffle dans les années 2010, justement.
Je voudrais vous poser la question, puisqu'on se demande comment cette affaire transforme, a bousculé la société espagnole et l'a transformée. Comment ces mouvements féministes ont accompagné la réflexion à partir de l'affaire de la Manada? Et est-ce que l'affaire a permis de, entre guillemets, donner un nouveau souffle à ces mobilisations, ou bien est-ce que la dynamique était déjà à l'œuvre?
Moi, je dirais, bon, elle était à l'œuvre et on peut prendre une perspective historique encore plus large pour comprendre comment les mouvements féministes espagnols se sont mobilisés depuis les années 80, bon, même, voilà, à la fin de la dictature et pendant les années 80, pour obtenir toute une série de changements légaux très importants. Et il y a un livre en Espagne qui a un grand succès depuis quelques années. C'est une politologue qui s'appelle Nerea Barjola, qui a écrit un livre sur s'appelle Microphysique sexiste du pouvoir. Et elle va expliquer dans ce livre les changements dans les codes pénals dans les années 90. Qui vont mettre au centre de la définition des violences sexuelles la question de l'intégrité, non plus de l'honneur, de la pudeur et toute une approche très sexiste qu'il y avait avant ces réformes des années 90. Elle va expliquer l'importance des mouvements féministes pour revendiquer la liberté sexuelle des femmes et comment il y aura certains cas. Donc, en cas d'un triple féminicide sexuel à Alcácer, au Pays Valencià, elle analyse les récits médiatiques de ces cas-là pour comprendre comment c'est un récit de la terreur sexuelle qui va amener toute une génération vers un nouveau enfermement. À un moment donné où en Espagne, les mouvements féministes étaient en train de gagner la bataille de la lutte pour la liberté sexuelle des femmes. C'est un livre très intéressant et si on suit un peu, donc, dans les années 2010, 2020, il y a une nouvelle politisation des violences, notamment à cause du fait que la loi cadre de 2004 avait une définition qui était très partielle de la violence de genre. C'est une loi qui finalement va se centrer sur la violence exercée par les partenaires ou l'ex-partenaire. C'était une définition qui est déjà à sa promulgation était critiquée par les féministes qui disaient que c'était une définition partielle, puisqu'il y a toute une série de violences machistes que les femmes peuvent vivre qui ne sont pas exercées par les partenaires ou ex-partenaires. Et ça posait un problème à la fois conceptuel et à la fois des droits des victimes. C'est pour ça que la victime de la Manada, par exemple, elle n'a pas pu jouir des droits reconnus par la loi de 2004, puisque la violence qu'elle avait subie n'était pas exercée par les partenaires par un partenaire ou un ex-partenaire. C'est-à-dire que le procès judiciaire n'a pas eu lieu dans sa ville d'origine, c'est-à-dire Madrid, elle a dû se déplacer à Navarra, qu'elle n'a pas eu toute la protection intégrale au niveau d'accompagnement juridique gratuit et accompagnement psychologique. Donc ça, c'était un manque, c'était un problème. Et la mobilisation de ces années-là, c'est pour dire, voilà, les victimes de violences sexuelles, elles doivent commises par des hommes qui ne sont pas partenaires ou ex-partenaires et qui sont beaucoup, hein, la loi de garantie intégrale de la liberté sexuelle, la loi de solo si et si, elle va justifier sa réforme avec la macro-enquête des violences sur les femmes de 2019 en montrant que plus d'un million 300 000 femmes de 16 ans ou plus ont subi des violences sexuelles en dehors du couple tout au long de la vie. Et donc des chiffres, voilà, qui montrent l'ampleur et la prévalence très importante du problème. Et donc il fallait donner une réponse politique et juridique à ça. Et c'est une réponse qui est portée par les mouvements féministes et par les féministes, et par les juristes féministes, par les féministes qui sont aussi dans les institutions en Espagne.
La loi de 2004 à laquelle vous faites allusion que l'Espagne a adoptée est donc dite mesure de protection intégrale contre la violence conjugale a longtemps fait de l'Espagne, a donné à l'Espagne l'image d'un pays pionnier dans la lutte contre les violences conjugales en créant notamment des tribunaux spéciaux.
Dans un procès pour menace comme ici, s'il ne se tenait pas dans le cadre d'une relation de couple, nous serions face à un délai mineur. Deuxièmement, le procès ne se serait tenu que si la victime avait porté plainte. Puisqu'il s'agit d'un cas de violence contre la femme dans une relation de couple, la victime n'a pas besoin de porter plainte elle-même. L'État agit directement. Et enfin, concernant les peines, eh bien, dans le cas de menace dans un contexte, disons, normal, la peine aurait pu être seulement une amende. Mais ici, dans le cas d'une violence contre la femme, la peine sera obligatoirement soit une peine de prison, ou comme on l'a vu ici, des travaux d'intérêt généraux.
Un témoignage d'un juge spécialisé de la Cour pénale qui s'exprimait sur France 24 en 2018. Des tribunaux spéciaux, un soutien juridique et financier aux victimes, des mesures d'éloignement. Avec le recul, 20 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire, Alice Toussa, que cette loi de 2004, une loi organique, a permis de réduire les féminicides et les violences quand elles s'exerçaient dans le cadre conjugal en Espagne?
Oui, très clairement. Cette loi a été très utile, puisque en Espagne, les victimes de féminicides sont, par exemple, bien moins nombreuses qu'en France. Alors, elles sont toujours trop nombreuses, mais elles demeurent quand même moins nombreuses. Elles en sont au nombre, me semble-t-il, d'une cinquantaine aujourd'hui, alors qu'en France, nous en sommes entre 90 et 122 selon les décomptes.
Sur l'année.
Sur l'année, voilà, sur cette année, jusqu'à hier. Et simplement pour rebondir, le fait qu'en fait, cette loi de 2004 se centre sur les victimes au sein du couple, à mon sens, cela a une explication. Cette loi découle d'un meurtre qui avait eu lieu en Espagne en 1997. Donc en fait, rapidement, c'était une femme, Ana Orantes, qui était allée témoigner publiquement sur la télé andalouse des violences que son ex-conjoint, son ex-mari lui faisait subir. Elle avait porté plainte beaucoup de fois, cela n'avait jamais abouti. Et donc, elle avait décidé d'aller témoigner publiquement des violences, donc en les expliquant de manière, en les nommant en fait publiquement, pour une des premières fois en fait en Espagne. Et 13 jours plus tard, elle est assassinée par son mari, donc dans des circonstances affreuses puisqu'elle est brûlée vive. Et ce meurtre va vraiment faire l'effet d'une bombe pour l'opinion publique qui va manifester. Et c'est de là, en partie, dont découle cette loi de 2004. Et c'est un élément de contexte permettant d'expliquer...
Pourquoi ça s'est centré sur les violences conjugales. Et en même temps, comme le disait Gloria Casas-Villa, toutes ces avancées contenues dans la loi de 2004, elles passaient à côté des violences qui s'exercent en dehors de la violence conjugale. Est-ce qu'on peut dire désormais, aujourd'hui, entre la loi de 2004 et celle de 2022, qui sont toutes deux des lois organiques, qu'en 20 ans, c'est une progression assez historique, assez inédite pour la protection des femmes par rapport aux violences sexistes et sexuelles, Gloria Casas-Villa?
Oui, c'est une progression claire et nette, et en même temps, c'était une obligation, puisque l'Espagne, en ayant ratifié la Convention d'Istanbul en 2014, elle était dans une injonction à faire ces réformes-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que voilà, l'Espagne, au fur et à mesure, et suite à la pression des mouvements féministes, elle va... et de ces instances internationales très importantes, elle va améliorer sa réponse face aux violences machistes. Il faut dire aussi qu'au-delà de la loi, de ces lois au niveau de tout l'État, toutes les communautés autonomes, toutes les régions en Espagne ont des lois propres, spécifiques, de réponse aux violences sexistes, aux violences machistes. Par exemple, en 2008, en Catalogne, il y a eu la promulgation de la loi des droits des femmes à éradiquer la violence machiste, qui déjà en 2008 avait une définition beaucoup plus large de ce que c'est les violences machistes qui dépassait vraiment les cadres conjugales. En tout cas, ce qui est important, c'est que la semaine dernière, il y a un rapport du Grevio, qui est le groupe d'experts indépendants qui veille à la mise en œuvre de cette Convention d'Istanbul, qui a publié un rapport thématique sur l'Espagne, et qui reconnaît le fait que l'Espagne va mettre en œuvre au fur et à mesure les mesures de cette convention d'Istanbul, mais qu'il y a encore du chemin à faire, il y a des choses qui restent à faire, et notamment le fait que ces rapports du Grevio, ces rapports thématiques, va montrer qu'il y a une recrudescence des discours qui s'opposent à l'égalité et qui nient des discours négationnistes, des violences à l'encontre des femmes. Ces rapports va citer notamment en étude du Centre d'études de recherche sociologique, une étude d'opinion sur les perceptions autour de ces questions-là qui va pointé que 65% des jeunes hommes âgés de 18 à 24 ans pensent que les inégalités entre les femmes et les hommes sont minimes, voire inexistantes. Et c'est que 52% d'entre eux considèrent que les politiques en matière d'égalité et de lutte contre les violences sont allées trop loin. Donc ce sont des données assez préoccupantes.
Un chemin qui reste à parcourir, comme vous le disiez. On va continuer à en parler juste après la musique. Vous écoutez Culture Monde, c'est le troisième épisode de notre série sur ces affaires qui ont constitué des tournants dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et nous sommes aujourd'hui en Espagne.
Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo, solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada.
La chanteuse Rigoberta Bandini qui se désespère de ne pas être née chienne mais née humaine. Je n'aurais pas ces problèmes d'anxiété, je ne serais pas ici en train de pleurer, personne ne pourrait m'empêcher d'aboyer. Suite de notre émission sur les violences sexuelles et sexistes en Espagne, on s'intéresse tout de suite précisément au monde politique.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Ce mardi, nous avons pris connaissance d'une publication anonyme de Cristina Fayaras et à la suite de cette publication, nous avons entamé une enquête au sein de SUMAR. Nous avons demandé des explications à Íñigo Errejón et c'est ce qui a conduit à sa démission aujourd'hui. Il a reconnu avoir eu un comportement sexiste dans le cadre de cette enquête. On continue de s'informer sur la situation. Ces comportements, sur lesquels on lui a demandé de s'expliquer, n'ont pas leur place dans une formation politique qui se considère comme féministe, et cela l'a conduit aujourd'hui à démissionner.
La porte-parole du parti de gauche SUMAR qui annonçait le 24 octobre la démission du député Íñigo Errejón suite à des accusations de comportement sexiste et d'agression sexuelle. Une affaire qui ébranle toute la gauche espagnole alors que la lutte contre les violences de genre est affichée comme une de ses priorités et qui fait écho 20 ans plus tard à l'affaire dite Nevenka du nom de cette conseillère municipale victime de harcèlement de la part du maire de sa ville et qui fut la première à obtenir la condamnation d'un élu. Bonjour Ludovic Lamont.
Bonjour.
Bon et bienvenue. Vous êtes journaliste à Mediapart, spécialiste de l'Espagne. Pour commencer sur l'affaire Íñigo Errejón, quels ont été les... Alors c'est tout récent, hein, c'était le 24 octobre. Quelles ont été d'ores et déjà les réactions de la classe politique, en particulier à gauche, suite aux accusations portées contre lui et suite à sa démission ?
Ce qui est assez spectaculaire déjà, c'est que la condamnation, est quasiment unanime à gauche et personne n'est venu le défendre. Notamment, voilà, c'est, on pourrait dire qu'il faudrait attendre un peu que la justice passe, c'est quand même parti d'un témoignage anonyme, etc. Et là, on voit que, en tout cas, les partis de gauche ont fait bloc, justement, pour croire la parole des femmes qu'ils mettaient en cause. Et on voit quand même que le climat politique en Espagne, vous parliez de l'affaire Nevenka, il y a, voilà, de 2001, a énormément évolué.
Alors, c'est parti d'un témoignage anonyme qui a été publié sur un compte Instagram qui est tenu par la journaliste espagnole Cristina Fallaras. Elle est très connue en Espagne. Est-ce que vous pouvez nous resituer, nous redire quel est son rôle et comment ce compte Instagram a joué un rôle très important depuis la vague MeToo en Espagne ?
Oui, c'est ça qui est une histoire vraiment étonnante dans comment s'est déclenchée la démission de Ellejón. Donc effectivement, ça part d'un témoignage anonyme qui est donc sur le compte que tient cette journaliste qui est aussi écrivaine. Alors c'est une figure assez connue du mouvement féministe espagnol et qui a été proche, on va dire, des nouvelles gauches, hein, des gauches indignées depuis les années 2010. Et elle a pris l'habitude, alors en fait, en particulier depuis l'affaire du baiser forcé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'été 2023, quand l'entraîneur de football de l'équipe féminine de foot espagnole avait, après la victoire de l'équipe, fait un baiser à l'une des joueuses et avait provoqué une intense polémique sur la violence de cet acte. Depuis, elle tient un compte de manière régulière sur Instagram, en fait, où elle publie, alors je crois qu'il y en a à peu près 3500 témoignages depuis plus d'un an, des témoignages de femmes qui lui arrivent de tous les secteurs professionnels possible, de violences sexistes et sexuelles, alors dont la gravité varie, et à chaque fois en fait la règle qu'elle s'est fixée, c'est que elle est juste un canal. Elle dit, elle n'enquête pas sur la véracité de ce qui se passe, mais par contre elle essaie de construire un espèce de safe space, d'un lieu sûr où la parole des femmes peut, voilà, où on peut dire ce qui s'est passé, mais à chaque fois du coup elle l'anonymise. Et le succès est tel, et l'ampleur de ce compte est telle, qu'elle en a même publié un livre, là, début novembre en Espagne, qui s'appelle « No publiques mi nombre »,« Ne publie pas mon nom », ce qui est un peu à chaque fois ce que ces femmes demandent à Cristina Fallaras en lui envoyant son message, et qui vient d'être traduit, et de fait en créant un début de polémique au sein du mouvement féministe sur l'anonymat des témoignages.
Alors, pour préciser sur l'affaire Íñigo Errejón, le premier témoignage, il est donc anonyme, mais il faut dire qu'il a entraîné d'autres accusations, dont certaines à visage découvert, comme celle de l'actrice et présentatrice Elisa Mulia, qui, elle, accuse Errejón d'agression sexuelle. Elle a déposé plainte, donc on verra ensuite ce que donne l'affaire. Tout l'enjeu là aujourd'hui dans la sphère politique, c'est de savoir si certains cadres savaient au sein de Sumar, au sein de Podemos, peut-être même au sein du PSOE, de toute la coalition, et si Errejón a été couvert pour ses agissements. Qu'est-ce qu'on en sait pour le moment ?
Tout à fait. Alors, ça fait vraiment partie de ces questions un peu toxiques, on va dire, qui sont déclenchées après la démission d'Ellejón. À ce stade, ce qui complique le panorama, c'est que il y avait déjà eu une première dénonciation anonyme sur Twitter en 2023. Et qui, à l'époque, avait été retiré quelques heures plus tard. Et tout se joue sur le fait de savoir si, en gros, Yolanda Díaz, qui est donc la personnalité autour de laquelle s'est construite la plateforme de Sumar, et qui est, par ailleurs, vice-présidente du gouvernement espagnol aux côtés de Pedro Sánchez, si Yolanda Díaz, en fait, a géré directement le cas de cette histoire-là ou pas, si elle avait été mise au courant, etc. Et donc là, il y a une bataille des récits qui est en train de se nouer autour de comment a été géré ce témoignage de 2023 et pourquoi il a été retiré des réseaux, etc., qui risque, à mon avis, de durer longtemps, de rebondir, y compris pendant de futures campagnes électorales, etc. Donc à ce stade, il y a beaucoup de récits. Ce que je peux juste rajouter, c'est qu'il faut avoir en tête que Sumar est dans la coalition avec le Parti Socialiste, mais qu'il y a aussi donc une gauche désormais qui se situe un peu plus radicalement, un peu plus à gauche, qui est le Podemos, on va dire, officiel, hein, les gens de Podemos, dont Irene Montero, qui est cette ancienne ministre qui a fait la loi du CISC dont vous venez de parler dans la première partie de l'émission, et elle maintenant est partie vraiment en bataille contre Yolanda Díaz sur ce sujet, en assurant qu'elle était au courant et qu'elle avait été mise au courant.
Vous avez, juste pour préciser, vous avez employé le terme de questionnement toxique, juste pour bien comprendre, parce que ces questionnements sont a priori légitimes, de savoir à quel point il a été couvert par un système politique. Juste pour bien comprendre le terme que vous avez employé.
Non, bien sûr. En fait, on est en train de... Soumar est un parti qui est quasiment quasiment une structure très jeune. Beaucoup disent en fait qu'il n'a pas construit une véritable partie. Et ce qu'on a découvert notamment sur ces questions-là, c'est que il y a par exemple, alors qu'il y a un discours très féministe du parti qui fait de ces questions ses priorités, etc., il n'y a pas du tout de, par exemple, de protocole qui ont fonctionné. Donc ça, cette question sur la structure, etc., évidemment, c'est absolument légitime sur comment les protocoles ont fonctionné, les lancements d'alerte, sur est-ce que c'est ce qui a été étouffé, etc. Oui, bien sûr. Après, il y a tout un jeu politique qui a démarré très très tôt dans l'histoire, alors que les enquêtes journalistiques n'ont pas encore été publiées, etc. Et il y a un emballement sur les divisions des gauches qui, là, me paraît, moi, plus politicien à ce stade. Voilà, c'est ça que j'essayais de dire. Mais ce qui est certain, c'est que les protocoles, comme l'a dit... il y a le porte-parole de Soumar qui a tout de suite reconnu que les protocoles du parti n'avaient pas fonctionné, alors même qu'eux se défendent d'être les plus féministes dans le paysage politique espagnol.
L'affaire Íñigo Errejón, elle fait écho à une affaire qui s'est déroulée il y a 20 ans, qu'on appelle l'affaire Nevanka, du nom de cette jeune conseillère municipale qui a été victime de harcèlement sexuel de la part du maire. En quoi l'affaire Nevanka a marqué les esprits rapidement en Espagne? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été une pionnière? Et comment le télescopage entre ces deux affaires, puisqu'il y a un film qui vient de sortir sur l'affaire Nevanka, ouais, et bien résonne aujourd'hui en Espagne?
Absolument. Ouais, c'est vraiment une concordance des temps, on peut dire, qui est assez incroyable. Donc, effectivement, c'était donc à l'époque une conseillère municipale de la ville de Ponferrada, dans le nord-ouest de l'Espagne, et qui, à l'époque, quand elle dénonce devant la justice des violences sexuelles qui ont été commises contre elle par le maire de la ville, qui est un maire donc du Parti populaire conservateur, sa parole n'est pas prise au sérieux. Elle se retrouve non seulement avec tout un paysage médiatique contre elle, mais aussi avec des citoyens qui sont très énervés, etc. Et finalement, elle a réussi à mener cette bataille qui a abouti, vous l'avez dit au début, à la prise en compte de sa parole et à la première condamnation d'un politique sur ce type de questions en Espagne. Donc il y a eu vraiment une première, et là encore maintenant, la mémoire de Nevanka Fernández est systématiquement reprise maintenant dans les manifestations. Enfin, c'est un moment qui est vraiment revisité de manière décisive par les féministes aujourd'hui. Et c'est vrai que ce qui se joue autour de Errejón est comme un deuxième moment. Alors, on voit bien que la réaction est totalement différente, parce que là, pour le coup, il a démissionné et tout le monde prend au sérieux la gravité de ce qui s'est joué, le comportement toxique d'Errejón, etc. Et surtout, il touche, il éclabousse une figure des nouvelles gauches. C'est-à-dire, c'est là où l'affaire Errejón est encore plus complexe, c'est que on touche à des gens qui ont défilé dans les manifestations féministes des dernières années, notamment celles contre la manada, on fait du féminisme leur priorité. Donc, on voit bien que là, il y a un espèce de d'écart gigantesque entre les discours qui étaient affichés, les votes qui ont été faits, les lois qui ont été préparées, et puis le comportement de certains politiques. Donc lui, dans la lettre qui a accompagné sa démission, il utilise le terme de... Il reconnaît une subjectivité toxique. Il dit qu'il est à la fois le produit du patriarcat, du néolibéralisme, etc. Cette lettre, qui par ailleurs est extrêmement complexe quand il l'a publiée sur les réseaux sociaux, a été évidemment très mal reçue par les mouvements féministes, notamment
de se victimiser.
On avait presque l'impression que lui se retrouvait victime d'un système politique ou d'une idéologie, alors que c'est lui la personne qui a commis ces...
Merci beaucoup, Ludovic. Clamant. Merci également à nos invités de la première partie, Gloria Casas-Villa et Alice Toussa. Et tout de suite, c'est la revue de presse internationale. Oui, le
le futur président des États-Unis a prévenu, dès son arrivée au pouvoir le 20 janvier, il signera un décret pour imposer des droits de douane de 25% au Mexique et au Canada. Trump assure que cette taxe restera en vigueur jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl et les migrants illégaux, arrêtent, je cite, « l'invasion de notre pays ». Alors, cette déclaration a bien sûr fait réagir. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, met en garde si la menace est mise à exécution, le Mexique imposera lui aussi des droits de douane. Côté canadien, Justin Trudeau assure avoir eu un bon échange avec Donald Trump sur le sujet. Et dans la presse, eh bien, les journaux mexicains et canadiens se retrouvent sur plusieurs points. D'abord, la lassitude. Un éditorialiste de La Jornada au Mexique commence son article par cette phrase « Que les Mexicains qui en ont marre de vivre sous la menace de Trump lèvent la main, nous devons être des millions ». Même chose dans le titre québécois La Presse, où on peut lire cette phrase « Bref, voilà qu'on recommence, il faudra reprendre les négociations avec l'intimidateur en chef ». Autre similarité, la question de la crédibilité qu'on peut donner aux propos de Donald Trump. La Jornada rappelle que Trump s'est fait une spécialité de se vanter de ce qu'il ne fera pas. Il faut prendre au sérieux la menace de Trump, mais pas trop, peut-on lire dans la presse. Et puis vient ensuite la question de la faisabilité. La presse rappelle que les produits venant du Canada, du Mexique et de la Chine représentent 42% des importations aux États-Unis. Le risque, c'est donc que les consommateurs du Texas ou du Michigan payent le prix de ses tarifs douaniers. Et puis, le journal développe un exemple. Si l'aluminium du Québec coûte 25% plus cher, alors le constructeur de voitures américain le répercutera sur le prix de vente. Il rappelle aussi qu'une voiture peut passer plusieurs fois la frontière pendant sa conception.
Et Mathilde, certains essayent de voir une sorte d'opportunité derrière la menace.
Côté canadien, le journal conservateur le National Post y voit une occasion de développer l'exploitation des ressources naturelles de son pays. En fait, selon l'auteur, en essayant de faire du Canada le personnage principal de la lutte contre les changements climatiques, le gouvernement de Justin Trudeau a en fait ralenti l'exploitation de ses ressources. Or, c'est pour lui dans ce domaine que le pays peut tirer son épingle du jeu. Et de leur côté, les Québécois de La Presse mettent en garde. Le Canada ne doit pas céder à la tentation de séparer son cas de celui du Mexique. La technique de Donald Trump, c'est de diviser pour mieux gagner et il sera plus facile de négocier à deux face aux États-Unis. Au Mexique, enfin, la Jornada explique que dans tout ce que dit Trump, il y a un point avec lequel l'opinion publique mexicaine est d'accord. Peu importe son origine, il faut arrêter la violence et la criminalité.
Et aux États-Unis, justement, Mathilde, les prisons privées se frottent les mains.
C'est ce que nous dit un article d'El País America. Les actions de Géogroupe et Corps Civique, deux grands groupes de prisons privées américaines, sont en hausse. Et pour cause, ils espèrent détenir les millions d'immigrés que Donald Trump promet d'expulser dès son arrivée à la Maison-Blanche. L'article cite un rapport de l'ONG The Sentencing Project, selon qui 8% des détenus aux États-Unis sont dans des prisons privées. Ça représente près de 100 000 personnes qui vivent dans ces prisons à but lucratif. Et selon une enquête du département de la Justice, les agressions y sont plus fréquentes, l'usage de la force plus excessif et la mise à l'isolement plus courante. Écoutez ce qu'en dit Eunice Shaw, elle est membre de l'Union américaine pour les libertés civiles. Nous voyons les prisons privées réduire leurs coûts, ne pas fournir de soins médicaux et ne pas garantir aux détenus les conditions de vie sûres et humaines qu'ils méritent, dit-elle. Toujours selon El País, le système de l'immigration aux États-Unis est l'un des plus grands clients de ces entreprises privées, générant en 2022 43% du chiffre d'affaires de Géogroup. Géogroup qui a donc bien compris l'intérêt de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. D'ailleurs, selon la chaîne américaine ABC News, il y a quelques mois, l'entreprise a fait don d'en tout 1 million de dollars pour financer la campagne du candidat républicain.
Et enfin Mathilde, l'Indonésie rejette un investissement de 100 millions de dollars de l'entreprise Apple.
On lit cette information un peu étonnante dans le Nikkei Asia. En fait, si Apple a proposé cet investissement, c'est pour que l'Indonésie autorise enfin la vente de l'iPhone 16 dans le pays. Elle est pour le moment interdite cette vente car l'Indonésie exige que tous les portables comportent au moins 35% de composants produits localement. L'objectif de cette politique, c'est bien sûr de stimuler la production high-tech dans le pays. Alors, Apple a donc essayé de faire une offre jugée insuffisante. D'autant plus que le ministère de l'Industrie rappelle qu'il manque encore 10 millions au précédent plan d'investissement de la marque. Apple, qui n'est pas la seule entreprise dans ce cas-là, les téléphones Google Pixel ont aussi été interdits à la vente pour la même raison.
Merci beaucoup Mathilde Ansker. On vous retrouve demain pour la revue de presse internationale dans la matinale. Et nous, direction demain en Inde pour un retour sur l'affaire dite Nirbhaya, du viol collectif du bus de New Delhi, survenu en 2012, qui avait profondément choqué le pays. Et dans un instant, les midis de Culture par Marie Laborie.
Vous écoutez France Culture.
Pourquoi Elon Musk fascine-t-il autant ?
Guillaume Erner.
Est-il le héros d'une nouvelle ère ou l'illustration de ses contradictions ?
This is one of the great questions in physics and philosophy is where are the aliens?
Nous plongeons dans la vie, les réussites et les controverses de celui qui veut nous emmener sur Mars et sera à la Maison Blanche.
Les visages de l'actualité. Elon Musk à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France. LSD part à la recherche de l'histoire de la radio au Maghreb. De l'arrivée des premiers postes jusqu'à la décolonisation, comment ce média de masse a-t-il joué un rôle fondamental ?
En fait, on donnait la parole à des intellectuels, notamment tunisiens, algériens, etc., etc.
LSD, la série documentaire. Le Maghreb des ondes, un enjeu colonial. Par Agerbed Boubaker, réalisation Thomas Duterre, sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et dans quelques secondes, il sera à l'heure de retrouver Marie Laborie pour les Midis de Culture. Bonjour Marie.
Bonjour Mélanie.
On est mercredi, aujourd'hui c'est cinéma.
Exactement, avec nos critiques, on va parler d'un homme.